Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de retrouver dans l'émission des Éclats de Lire un auteur dont la voix est devenue essentielle pour raconter notre époque et surtout pour la raconter à ceux qui la vivront le plus longtemps, les enfants et les adolescents. Je parle bien de Sylvain Levé qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sylvain Levé.
Bonjour.
Vous êtes auteur de pièces de théâtre pour les jeunes et les moins jeunes un petit peu. Avant ça, vous avez été comédien d'abord en amateur puis en professionnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du théâtre et qu'est-ce qui vous a poussé à professionnaliser cette activité-là?
Alors moi j'ai découvert le théâtre par hasard, en voyant une affiche dans la rue. J'avais aucune idée de ce que c'était que le théâtre, je n'avais jamais vu avant. Et j'en avais jamais fait. Et puis, alors, pourquoi cette affiche m'a interloqué, que j'ai eu envie d'aller essayer, ça, j'en sais rien. Mais toujours est-il que quand j'ai vu cette affiche, j'ai dit, tiens, je vais aller faire un tour à cet atelier théâtre amateur. Et puis, je suis rentré dans le théâtre, et puis, j'ai eu comme un coup de foudre avec le lieu, avec ce qu'on y faisait. Et puis, à partir de ce jour-là, je suis retourné la semaine d'après. Puis après, j'ai fait plusieurs ateliers par semaine. Et puis voilà. Et puis après, j'ai compris qu'on pouvait faire un métier de ça. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser. Alors, moi, j'ai pas fait d'école parce que j'étais un peu trop âgé à l'époque. C'était les écoles nationales et tout ça était pour les gens plus jeunes. Mais voilà, j'ai commencé à rencontrer des gens. On a fait des premiers spectacles. Et puis, on comprend qu'il faut faire des dossiers de subvention, etc., 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 quoi. Donc, voilà. Alors, pourquoi le théâtre et pas autre chose? Ça, j'en sais rien.
Il y a bien quelque chose dans le théâtre, soit dans l'écriture théâtrale, soit dans la scène qui vous attire particulièrement?
Bon, après moi j'aime l'idée de créer de la fiction, je crois beaucoup aux forces de la fiction et que la fiction permet de mettre du sens à la vie, mettre du sens au monde dans lequel on vit. Donc ça j'ai eu la chance aussi de tomber sur mes premiers profs qui m'ont amené aussi sur des textes comme Coltès ou Édouard Bond, des gens comme ça, qui m'ont permis de comprendre que le théâtre c'était pas juste se divertir ou divertir les gens, mais qui avait une notion de questionnement sur notre propre humanité. Et ça, ça m'a beaucoup plu, quand j'ai commencé de me dire « Ah oui, en fait, ça permet aussi de réfléchir au monde dans lequel on vit. »
De comédien, vous êtes devenu auteur de pièces de théâtre. Vous êtes intervenu dans cette émission il y a un peu moins de 10 ans, je crois. C'était peut-être en 2017, je ne suis pas certaine. Et vous disiez que vous aviez commencé à écrire des textes de théâtre parce que vous ne vous y retrouviez pas dans la production qui existait à l'époque et que vous aviez envie d'interpréter autre chose.
Alors, oui, c'est pas que je ne m'y retrouvais pas, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait déjà des auteurs très pertinents, comme Nathalie Papin, Philippe Dorin, Catherine Zambon notamment, et puis Joël Joanneau. Sauf que ils n'étaient pas nombreux, et qu'au bout de 4 ou 5 fois qu'on avait travaillé avec les jeunes les textes de Nathalie ou de Philippe, on avait envie aussi de passer à autre chose, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, effectivement. Il n'y avait pas beaucoup de textes et pas beaucoup d'auteuristes qui travaillaient pour la jeunesse. Et voilà, et donc au bout d'un moment, et eux à l'époque n'avaient pas encore beaucoup de textes parce que c'était le début. Et ce qui fait que, au bout d'un moment, on avait envie aussi de diversifier un peu notre travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit mon propre texte, Wasmok, au départ, pour un groupe d'adolescents d'un théâtre à Rennes, le Théâtre du Cercle. Et puis de là, on m'a dit de le proposer une maison d'édition, édition théâtrale, qui lançait sa collection jeunesse. Et puis l'aventure est partie pour moi, ouais.
Ouais. Est-ce que quelques années se sont écoulées depuis? Est-ce que l'offre a changé dans ce domaine-là?
Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui écrivent pour la jeunesse et des choses très bien. Oui. Et puis de toute forme d'auteurisme, des gens plus jeunes, des gens plus âgés. Oui, là, il y a une grande, grande, grande diversité, une grande offre de théâtre pour la jeunesse, parce que après, les précurseurs comme Édition Théâtrale, notamment, enfin, principalement, je dirais, ont été copiés, imités par d'autres maisons qui ont lancé aussi leur collection jeunesse. Donc oui, il y a une grosse, grosse offre de théâtre pour la jeunesse en France.
Et justement, pourquoi est-ce que vous écrivez pour la jeunesse?
Moi, j'aime bien l'idée. Alors, j'écris pas que pour la jeunesse, mais quand j'écris pour la jeunesse, j'aime bien l'idée de permettre aux jeunes lecteurs, en même temps, de de comment dire, de prendre du plaisir à lire, de prendre du plaisir à découvrir un texte, et en même temps, par le biais de ce texte, de peut-être remettre en cause certaines pensées qu'il pouvait avoir dû à une éducation, ou en tout cas de se réaliser eux-mêmes en disant « Ah ben ce personnage, il pense ça, peut-être qu'en fait je pense ça aussi, moi, et que... » Ou au contraire, je ne pense pas du tout ça, et je ne penserai jamais ça. Ce qui permet pour moi de... C'est un outil en même temps poétique et en même temps un outil politique pour moi.
Et on en reparlera de cet aspect très engagé de votre travail, mais pour écrire pour la jeunesse, il paraît qu'il faut se mettre à hauteur d'enfant. Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on écrit pour l'enfant qu'on était ou pour les enfants qu'on rencontre aujourd'hui?
Non, c'est un peu les deux. On écrit un peu à l'enfant qu'on a pu être et essayer de se souvenir de comment on voit le monde quand on a 10 ou 12 ans. Et puis c'est aussi être au contact des enfants de maintenant, parce qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, c'est pas la société, elle est mouvante, elle bouge, donc on peut pas écrire. Je peux pas écrire comme moi, j'étais enfant dans les années 80. Forcément, il y a des choses qui sont plus les mêmes problématiques ou qui sont plus les mêmes qui n'ont plus les mêmes enjeux. Donc c'est un mélange des deux, c'est de retrouver la sensation de l'enfant qu'on était et se mettre au diapason de l'enfant des années 2020.
Donc il y a une différence entre les enfants d'avant et les enfants de demain.
Il y a des choses communes, évidemment, mais il y a aussi... l'enfant par lui-même n'a pas forcément bougé. Son rapport au monde, il est le même que mon enfant à moi. Mais la société a bougé, la société a évolué dans un sens négatif ou positif, ça dépend des moments et des sujets qu'on aborde. Mais oui, l'enfant, lui, quelque part, il y a des choses communes à tous les enfants du monde et de toutes les générations et les périodes de l'humanité. Mais l'humanité n'est jamais la même, par contre.
Et ça me fait penser à ce projet que vous avez mené il y a peu de temps, Albert et compagnie, où vous faites 26 portraits, c'est ça, d'enfants en France, et où, pour montrer qu'il y a quand même de grandes différences entre une enfance dans le sud de la France, dans les Cévennes par exemple, là où on est, ou une enfance dans une grande métropole.
Bien sûr, l'idée c'est de montrer que le discours d'identité nationale, il est complètement galvaudé et que les gens qui en parlent sont des gens qui ne connaissent pas le pays parce que on ne peut pas, on partage tous un même territoire, on a des valeurs communes, ou en tout cas une histoire commune sur un territoire. Mais entre un enfant qui vit effectivement dans les Cévennes et un enfant qui vit en plein cœur du 11e à Paris, ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas les mêmes codes, il y a des codes, c'est un peu comme l'enfance, il y a des codes communs. Il y a quelquefois une façon de parler commune un peu partout, mais entre celui qui est à 3 stations de métro de son collège et celui qui prend le bus pendant 1 heure le matin, ça c'est vraiment un exemple d'organisation, mais ça influence beaucoup sur la vie de tous les jours et sur aussi sa pensée vers le monde. Et l'idée de ce texte, c'est pas de dire c'est mieux de vivre ici ou de vivre là.
C'est juste pas pareil.
C'est juste que c'est complètement différent et que du coup ça influence des façons de penser le monde et des façons de vivre.
Et c'est important de prendre ça en considération aussi avant de comprendre le vécu de la personne.
Bah bien sûr, c'est intéressant et important pour moi de montrer qu'en fait il y a que chaque personne, chaque individu dans chaque région est synonyme et porteur d'histoire, est synonyme de quelque chose qui peut se passer et qui n'a pas une hégémonie ni parisienne ni rurale que tout ça est beaucoup plus complexe. Et si on enlève le côté géographique, il y a le côté aussi des classes sociales. Parce que habiter dans les Cévennes, si on a de l'argent, c'est pas pareil que si on n'a pas d'argent. Et pour le coup, c'est la même chose à Paris. Si on a de l'argent à Paris, c'est pas la même chose que si on a de l'argent si on n'a pas d'argent à Paris. C'est aussi la question de l'éducation, d'avoir un handicap ou pas, des choses comme ça qui font que chaque enfant, en fait, on est un peuple, on a des choses en commun, mais il y a une part aussi de destin individuel qu'il faut pas l'oublier.
Dans ces 26 portraits, est-ce qu'il y en a un qui vous ressemble plus que les autres?
Je dirais qu'il y en a un qui pourrait ressembler. Ils me ressemblent tous un peu parce
c'est
que quelque
ça.
Part
vous
on se
sert
toujours
partout.
De ce qu'on est. Mais je dirais que le premier, il me ressemble en tant qu'adulte en tout cas, en tant que père de famille, je dirais, à part que Je me considère pas comme un bobo parce que j'ai pas le comment dire le pouvoir d'achat des bobos, mais en même temps j'habite à Paris dans le 11e arrondissement avec une façon de penser le monde qui peut se rapprocher par moments et que mis à part le côté financier et des fois un petit peu hors sol des bobos, il y a aussi un avantage, je trouve, d'habiter dans les quartiers dans lesquels j'habite, c'est qu'il y a une grande bienveillance vis-à-vis de toutes les choix sexuels, les choix de vie, etc., les couleurs de peau, les religions. Voilà, moi j'habite dans un quartier où il y a très peu d'actes de racisme, de xénophobie, voilà, il y a une grande tolérance au monde et à la différence, et ça, je trouve que vivre dans un monde comme ça, c'est plutôt plaisant. Et évidemment, ça, il y a plein d'autres endroits dans le monde ou en France qui existent avec ce même modèle-là. Mais voilà, on va dire que le premier, Albert, il correspond un peu à ma vie d'adulte du moment,
D'accord.
quoi.
Et ce projet, Albert et compagnie, donc c'est un long texte de 26 chapitres. Sous
C'est ça.
quelle forme est-ce qu'il se présente? Là,
C'est
on n'est
comme
plus au
26
théâtre.
petites. Ouais, c'est 26 petites nouvelles en fait. En gros, moi j'ai fait un petit protocole d'écriture sous forme d'abécédaire. C'est 13 garçons, 13 filles, de A jusqu'à Z. Et chacun vit une aventure et au total, ça fait un portrait de la France. Et donc, c'est 26 petites nouvelles qui se lisent à peu près en 22-23 minutes. Donc, ça fait un bon temps de lecture à mettre en. Et moi, je les écris des fois sous forme théâtrale et des fois sous forme romanesque. Il y a un petit peu les deux. Et après, si quelqu'un un jour veut le mettre en scène, ça fait un spectacle de 11 heures. Donc c'est beaucoup.
Ouais, donc ça
Faudra
se
le faire en
réfléchit.
plusieurs fois.
C'est une série.
Oui, c'est une vraie série, oui.
pont.
Et ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre, où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui, 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 cui.
Oh, yeah.
Cui, 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 cui.
Oh, yeah.
Cui, 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 cui.
Oh, yeah.
Cui, 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 cui.
Tout à l'heure, vous avez un théâtre un petit peu politique, un petit peu engagé, mais surtout pas moralisateur. Comment est-ce qu'on peut trouver le juste milieu ?
Eh ben, pour moi, c'est que nous, on n'a pas de vérité. On n'est pas là pour dire c'est comme ça qu'il faut penser le monde. On est là pour dire, par contre, on peut penser le monde différemment aussi. C'est offrir des perspectives qui peut-être sortent un peu des sentiers battus, qui sortent un petit peu des choses... un peu simplifié et simpliste par moment. Et du coup, voilà, après, pardon, notre rôle, c'est pas de dire c'est comme ça qu'il faut penser par nos textes. C'est de dire que, par contre, il y a plusieurs façons de penser. Après, chacun est libre. C'est-à-dire que, par exemple, il y a jamais une fin complètement ni heureuse ni malheureuse dans les textes. Il y a souvent ce qu'on appelle des fins ouvertes. Après, le principe de l'écriture pour la jeunesse, on peut parler de tout à la jeunesse. On peut parler vraiment même des sujets les plus sensibles, mais on doit être très juste dans ce qu'on écrit. C'est pour moi la grande bataille de mon métier tous les jours, c'est de trouver la justesse des choses et aussi sans que ça se termine forcément de façon très bien comme dans à Disneyland, mais qu'il y ait quand même une porte ouverte sur un champ des possibles, quelque chose qui donne envie de vivre. Il ne s'agit pas de dire aux enfants le monde est pourri. Il ne s'agit pas de leur dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, parce que c'est faux, eux ils le savent. Et il ne s'agit pas de leur dire non plus d'avoir un discours nihiliste en disant une bonne météorite et puis on en finit. Moi j'ai confiance en l'être humain aussi. Je crois qu'écrire pour la jeunesse, c'est redonner confiance aussi à l'être humain, en fait, essayer d'avoir une deuxième chance.
Il y a plusieurs années, quand je vous interviewais déjà sur Radio Escapade, vous nous aviez parlé de votre fascination pour le mur de Berlin. Ensuite, j'ai lu la petite pièce Paloma aux éditions théâtrales où vous vous intéressez de près au mur qui sépare la favela des quartiers chics. Est-ce que vous avez une fascination pour les murs?
En ouais,
général,
sûrement. Enfin, en tout cas,
pour les frontières.
Cette notion que... Pardon,
excusez-moi. Les frontières sociales aussi.
Oui, c'est comment dire, symboliquement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire passer les... Le mur, c'est quelque chose qui bloque, c'est quelque chose qui cache l'horizon, c'est quelque chose qui réduit la visibilité du monde. Donc, et après, il y a les murs virtuels aussi. Et oui, si notre métier, en même temps que de pouvoir et faire rire et émouvoir et faire rêver, ça peut donner envie de casser quelques murs, je serais très heureux, en tout cas, d'avoir participé à ça.
Et un mur, c'est également quelque chose d'intéressant à mettre en scène ?
Oui, bien sûr, oui, c'est scéniquement, c'est voilà, c'est sauf, et même s'il est si c'est un mur virtuel, on peut le mettre en scène. Oui, il y a quelque chose de très scéniquement fort dans un mur.
Ouais.
Est-ce que, parce que là, je parlais de Paloma, vous avez commencé l'interview en citant Wasmoke, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets plus récents ?
Bien, j'avais envie aussi de faire autre chose un petit peu que du théâtre. J'ai beaucoup écrit de pièces en 20 ans.
Oui.
Et du coup, j'avais mes deux derniers livres, en fait, ne sont pas des pièces de théâtre. C'est un mini-roman à Rue de l'Échiquier qui s'appelle La Fête à venir, sur une jeune fille, et c'est plus pour les un peu plus grands, c'est pour une ado. C'est une ado qui veut reprendre la ferme de ses parents, mais qui en est interdit parce qu'elle est femme, justement. Enfin, les jeunes filles, et ça se passe dans les combrailles autour de Clermont-Ferrand. Et le deuxième livre que j'ai sorti il y a moins d'un an, c'est Barachik Poutrak, et c'est aux éditions des éléphants, et c'est un album jeunesse sur une famille d'ours qui doit déménager parce que la banque y fond, et qui se retrouve en Bretagne. C'est un petit peu une métaphore sur l'émigration et sur une fable écologique. Et voilà, et ça, j'avais très envie aussi d'aller chercher d'autres... Alors moi, j'ai une grande passion et amitié avec les éditions théâtrales depuis plus de 20 ans, mais j'avais aussi envie d'aller découvrir ces deux maisons qui sont très proches des éditions théâtrales, parce que c'est trois maisons au total qui sont très militantes, hein, Rue de l'Échiquier, Éléphant et Éditions théâtrales, qui sont des maisons indépendantes, qui sont des gens qui savent écouter ceux qui écrivent et celles qui écrivent, qui ont un grand respect de notre travail, qui accompagnent, qui sont au plus près des gens, et on n'est pas considérés comme des vendeurs de savon. Et là, je sors un deuxième texte avec Édition des éléphants, là, mais qui va sortir dans un an, je pense, qui s'appelle Do Not Cross, qui est un texte un peu farfelu c'est un faux polar, c'est un texte pour les ados. Et je sors chez Théâtral aussi un nouveau texte dans à peu près un an qui s'appelle Fidji, qui est une pièce sur une jeune fille qui a une légère déficience intellectuelle.
Et sur l'album jeunesse, en tout cas, vous en avez parlé trop brièvement, il y a beaucoup d'humour aussi.
Oui, oui. Moi, c'est important l'humour quand j'écris pour la jeunesse. Alors, il ne s'agit pas de faire des blagues on n'est pas ni des stand-uppers, ni des comiques, parce que justement, moi, je me bats un peu contre les stand-uppers, les comiques, tout ça, parce que je trouve qu'ils ont un peu trop de place. Et qu'en plus, on peut partager ou pas leur humour. Moi, je le partage pas toujours. Je trouve que des fois, c'est un petit peu faible. Mais c'est important pour moi. Moi, je me donne toujours trois mots quand j'écris pour la jeunesse. Faut que ce soit beau. Faut qu'il y ait de l'émotion. Faut que ce soit drôle aussi, comme une petite récompense. Donc, c'est de l'humour qui est salvateur, je dirais. Mais c'est pas que ça. C'est pas que faire rire. Ça peut être un humour un peu subtil. Et puis, j'essaye que ça questionne le monde. C'est mes trois mots clés, moi, quand j'écris. Voilà, que ça questionne, que ça puisse faire rire un peu, puis qu'aussi qu'il y ait du beau. Parce que je crois qu'on a privé les enfants du beau depuis quelques années. Moi, je me bats beaucoup. Enfin, je me bats. Si j'étais ministre, par exemple, je crois que je réfléchirais à des chaînes comme Gulli, par exemple, qui en fait font une apologie du moche, quoi. Les dessins animés, les dessins sont assez laids, il n'y a pas de dramaturgie. Ça part dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi, c'est bruyant. Maintenant, il n'y a même plus de dialogue, il n'y a que des bruitages pour faire les dialogues comme ça. On ne s'embête plus. Et je trouve ça un peu dommage, et je crois qu'il y a vraiment un potentiel du beau chez les enfants. Et je crois que les enfants, quand on leur offre du beau, ils en ont conscience. Mais ils n'ont pas la maturité pour, quand on leur offre du lait, d'avoir cette notion que c'est pas beau parce qu'ils n'ont pas encore cette maturité-là, quoi.
C'est aussi
pour moi, le mal est fait.
Les programmes aujourd'hui, ils sont de plus en plus formatés pour répondre à certains critères qui vont happer le spectateur. Et il faut que, à tant de minutes, il se passe un rebondissement incroyable. Enfin voilà, pour garder le suspense de cette manière-là.
On n'est pas du tout là-dedans.
Et on est de plus en plus abrutis là-dedans.
Complètement.
Et heureusement qu'il existe encore des auteurs comme vous, Sylvain Levé, pour écrire des vrais textes.
Merci.
Merci beaucoup pour cette émission. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Il nous reste une minute.
Non, mais enfin oui, je suis ravi de revenir au Salon du Livre, et puis voilà, dans quoi que j'aime beaucoup, en plus, qui est... moi je suis pas du tout de là, je suis breton de cœur et puis parisien de vie, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup et donc je suis ravi de venir vous rencontrer.
Et vous allez justement proposer un footing poétique lors du Festival des Éclats de Lyre. Est-ce que vous pouvez le présenter brièvement, cette activité ?
Alors, le footing poétique, c'est pour un peu désacraliser ou familiariser avec l'écriture. L'écriture, c'est pas que ça se passe pas qu'un bureau. Voilà, les gens pensent toujours que les écrivains vivent seuls dans un bureau abandonné, dans une maison abandonnée. En fait, alors on va pas beaucoup courir, on va surtout marcher. Mais par contre, c'est le stylo qui va courir sur la feuille, parce que de façon très ludique, très amusante et joyeuse, en fait, je fais un petit parcours dans la ville et de temps en temps, on s'arrête, je donne des consignes, on écrit sans trop se poser de questions, parce que je travaille beaucoup là-dessus, sur le laisser-aller. Et puis, ben, comme tout sportif du dimanche qui se respecte, quand on aura fait notre tour, on viendra à notre point de départ. Et puis, on lira nos textes en tous ensemble, en prenant autour d'un bon petit verre de vin blanc ou de jus de fruits, parce que, en tant que sportif du dimanche, on prend l'apéro à la fin. Et donc, voilà, et l'idée, c'est de s'amuser à écrire. En fait, ça donne des textes souvent très, très beaux, et très chouettes, parce que les gens se posent moins de questions, sont pas en train de réfléchir s'ils écrivent comme Flaubert ou Maupassant, ils écrivent, tout simplement. Et chacun est capable d'écrire des choses très, très belles. Et c'est un peu le principe, c'est de se dire qu'à la fin, ben oui, on est capable d'écrire, c'est pas réservé à des gens, quoi.
Merci beaucoup Sylvain Levé, on se
plaisir.
Retrouve aux Éclats de Lyre le week-end du 30 mai au Vigan. Et pour les auditeurs qui seraient intéressés par la programmation du festival, elle est désormais, depuis quelques jours, accessible sur le site www.leséclatsdelyre.fr.